Petite illustration pour introduire notre message. Et voilà, donc je vous présente un copain à moi qui fait du vélo et qui habite une ville qui s'appelle Issy. Et il a entrepris aujourd'hui de se rendre dans une autre ville qui s'appelle Là-haut. Là-haut avec un accent sur le A, ils y tiennent. D'accord ? Et donc, il enfourche son vélo et il se rend à la ville de Là-haut. Non, c'est pas très intéressant. Et voilà donc, comme on le sait, le chemin le plus court, c'est la ligne droite d'un point à l'autre. Et donc, notre cycliste part en direction de la ville de Là-haut. Mais, chemin faisant, et puis en regardant un peu plus près, de quoi allons-nous nous rendre compte? En fait, il va utiliser ce chemin-là. Pourquoi? Je ne sais pas. C'était bien parti. Et puis là, tout à coup, il vire à gauche. Un peu plus loin, manifestement, il ne sait pas trop où il va. Il repart sur la droite. Et ainsi de suite, pour finir quand même par arriver à Là-haut. Et c'est ça qui est surprenant quand on le voit faire autant de zigzags. Ça semble tout à fait incohérent, sauf peut-être là, hein, dans ce moment-là où il semble un peu se reprendre et dire « il faudrait peut-être quand même que je me remette dans la bonne direction » et c'est ce qu'il semble faire là. Mais de nouveau, ça recommence de manière tout à fait surprenante. Il y a un élément qui est important à prendre en compte. Attention, regardez bien. Oh là, pâté. Voilà, regardez bien. Je pense que vous avez compris l'illustration. C'est que la route qu'emploie mon copain, elle suit aussi une trajectoire ascendante qui le fait partir d'un point qui s'appelle ici et qui le mène vers un autre point qui s'appelle là-haut, mais d'altitude plus élevée. Et donc cette petite illustration va nous permettre d'introduire une réflexion sur notre marche dans la vie chrétienne et dans la vie de notre Église. Le livre d'Ésaïe, dans le chapitre 55, nous dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et comme vous l'avez vu par cette illustration, notre route, en fait, ne semble presque jamais, aller dans la bonne direction. À un moment donné, notre objectif qui est sur notre droite, un instant plus tard, il est sur notre gauche, suivant sur quel versant de la montagne je me situe. À chaque instant, on a l'impression de ne jamais aller vers l'objectif. Notre cycliste, est-ce qu'il aurait perdu de vue l'objectif qu'il a poussé à enfourcher son vélo? Non, mais bien entendu, il suit la route telle qu'elle se présente devant lui, telle qu'elle se déroule sous ses roues au fur et à mesure qu'il la découvre. Parfois, il a un peu plus de visibilité, il est dans des paysages escarpés, mais ça ne dure pas très longtemps, et il n'aperçoit qu'au tout dernier moment son lieu de destination. La seule chose qu'il sait, et qu'il fait qu'il va continuer sur cette route difficile et déroutante, si je passais le jeu de mots, c'est un panneau indicateur qu'il a vu au départ, qu'il a vu dans la ville d'ici, qui lui disait que là-haut, c'était par là. Ça tombait bien, comme c'est juste là qu'il voulait aller, il a pris cette direction-là. Mais le problème avec cette ville de là-haut, c'est qu'il ne l'a jamais vue, il s'en fait une idée. Et comme toujours, cette idée est en grande partie fausse.
à la fois porteuse d'espérance et de crainte, mais aussi de certitude, de doute, d'interrogation. Bref, c'est quand même un peu l'aventure. Et cette route qui n'en finit pas, avec des lacets interminables, ces changements de direction permanents, et cette pente qui ajoute l'effort à l'incertitude. Il y a là de quoi se décourager bien souvent. Et aussi de s'interroger. Suis-je toujours dans la bonne direction ? Que disait le panneau au départ d'ici ? Il disait bien que là-haut était par là, et que maintenant, là-haut était par là, puis moi je roule par là. Alors c'est un peu surprenant. Ai-je bien lu ? Est-ce bien le vrai là-haut ? Le là-haut avec un accent sur le A ? S'agit-il pas d'un autre là-haut ? Le panneau, est-ce que peut-être il n'indiquait pas une autre route, juste très proche, que je n'aurais pas vue ? Que faire ? Est-ce que je vais continuer à m'épuiser en suivant cette route qui me semble incohérente ? Ou bien je jette l'éponge et je me laisse redescendre en roue libre jusqu'ici, mon point de départ ? Et tout en avançant, tant bien que mal, il continue de se poser des questions. Ajouter à ça un tas de choses qui peuvent survenir, la nuit, le brouillard. Et là, vous avez un tableau qui est assez rebutant. Et donc, ces questions, retourner à ici. Ouais. Je peux retourner ici, reprendre ma vie d'avant. Je pourrais témoigner aux gens que cette route est vraiment difficile et sinueuse, pentue. Et propre à vous épuiser, à vous vider de toute votre énergie, qu'il vaut mieux en chercher une autre. Mais d'un autre côté, quand je vais arriver à ici, je vais repasser devant le panneau de là-haut, et là je vais bien voir que là-haut c'était bien par là. Et je vais probablement constater qu'aucun doute n'est permis, c'est bien la seule et unique route qui mène à là-haut. Et tous les jours, je vais repasser devant ce panneau qui va me narguer, qui va me mettre face à mon échec de ne pas avoir atteint l'objectif de là-haut. Et, réfléchissant ainsi, il continue d'avancer. Vient au moment où la pente s'atténue, et on le voit ici, ce qu'on disait, et où la route semble reprendre la bonne direction. Et ça, ça lui permet de récupérer, de reprendre des forces. Ses doutes s'estompent, les choses semblent prendre une tournure un peu plus conforme à ce à quoi il s'attendait, mais très rapidement, on le voit, de nouveaux lacets sont déjà en face de lui, et la pente, cette fois, est très très raide. Et il est de nouveau tenté d'abandonner, mais il a quand même retenu quelque chose de ce passage au plat, dans la bonne direction, et ça lui a quand même ôté une partie de ses doutes. Ça a pour lui presque autant de valeur qu'un deuxième panneau indicateur qui dirait que là-haut c'est par là. Pourquoi la route, si ce n'était pas la bonne direction, alors qu'on est sur le plat et qu'il n'y a aucun obstacle, pourquoi la route irait-elle dans cette direction si ce n'était pas la direction de là-haut ? À partir de maintenant, ses doutes s'estompent un peu et il se retrouve plutôt face à son seul courage, sa seule détermination. Et il sait que là, peut-être son pire adversaire, c'est lui, lui-même, avec ses faiblesses, son manque de persévérance, la tentation du renoncement, le risque de laisser le doute s'installer de nouveau, et puis peut-être encore quelques petites questions auxquelles le petit intermède sur le plat n'a pas répondu. Combien de temps encore ? Combien de virages ? En fin de compte, est-ce que je ne serai pas déçu ? Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ? Pourquoi notre vie personnelle, familiale, professionnelle, la vie chrétienne, la vie d'église, pourquoi ressemble-t-elle si souvent à ces routes en lacets ? La Bible abonde de passages qui fustige les méchants qui suivent des chemins tortueux. pour parvenir à leur fin, alors que elle dit que les voies de l'Éternel sont droites. Les voies de l'Éternel sont droites. Si on se retourne pour porter un regard en arrière sur le chemin parcouru, on est bien obligé de constater que le chemin est loin d'être rectiligne. Et je ne parle pas, bien entendu, de nos désobéissances qui peuvent nous entraîner loin du chemin par lequel nous devons passer, mais du chemin que Dieu nous a donné d'emprunter, par lequel il nous a été donné de passer sous son regard. Il serait légitime de penser qu'après notre rencontre avec le Seigneur, ce chemin est parfaitement rectiligne, et force est de constater que ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi ? Et alors le livre des Proverbes fourmille de considérations très intéressantes sur la question des voies de l'homme, des voies empruntées par l'homme. Et un premier proverbe au chapitre 16 et au verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Verset 25, toujours dans ce même chapitre. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Tiens, c'est intéressant. Telle voie paraît droite à un homme. Ceci nous suggère le fait que notre appréciation elle-même de ce qui est droit est peut-être de ce qui n'est pas droit, de ce qui est tortueux et de ce qui ne l'est pas, est peut-être sujet à caution. Notre vision de ce qui est droit est peut-être sujet à caution. Mais un autre proverbe nous éclaire un peu plus. Et c'est dans le chapitre précédent, au verset 24, donc chapitre 15, verset 24. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Là-haut. Hein, c'est pas pour rien que ce nom a été choisi, là-haut. Le sentier de la vie pour le sage mène en haut. Et comme on l'a visualisé sur l'écran par cette image, ce verset introduit la troisième dimension. Nous sommes en montagne. Dans la vie chrétienne, nous sommes en montagne. Le lieu vers lequel nous nous dirigeons est plus élevé que le lieu duquel nous partons. Et du coup, les lacets prennent bien sûr tout leur sens, parce que si on regarde le profil de la route qu'il aurait fallu emprunter pour aller tout droit, et là je suis gentil, c'est de la montagne à vache, on est bien d'accord. Pas nécessaire d'aller très loin vers chez nous pour trouver des endroits où ce serait carrément de l'escalade ou carrément périlleux avec des ravins, des précipices, des falaises, etc. Les lacets ont pour principale fonction d'atténuer la pente et de la rendre régulière. Ils transforment les falaises et les ravins en une route accessible à la majeure partie des véhicules. Bien évidemment, le prix à payer en est que la distance est considérablement rallongée. Le chemin par lequel Dieu nous fait passer, comme chrétiens et comme Église, est souvent bien incompréhensible à nos yeux humains, mais il a été tracé en prenant en compte plusieurs éléments. Comme on l'a dit, les écueils de tous ordres, des obstacles infranchissables, des parois verticales, des ravins, des précipices, des torrents, j'en passe, des terrains instables, des zones humides, des zones à avalanche. Deuxième élément qui a été pris en compte dans le tracé du chemin par lequel Dieu nous fait passer, nos limites. Nos limites humaines, au sens général, mais aussi nos limites personnelles et nos limites en tant qu'Église, qui doit garder sa cohésion malgré la diversité. Notre chemin aussi a été tracé en fonction d'une foule de choses que nous allons recevoir au fur et à mesure que nous avancerons sur cette voie. Des encouragements. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de passer un chemin difficile, une pente raide, et d'avoir au bout un encouragement. Des mises en garde, ça vaut le coup aussi. Des enseignements, des expériences, mais expériences suivies de remise en question, afin que nous ne soyons pas complètement... que nous ne nous appuyons pas uniquement sur nos expériences. Et puis, dernière chose, peut-être, certainement j'en oublie, mais moi j'en ai recensé quatre, dernière chose qui a été prise en compte dans le tracé de notre route, c'est... Enfin, qui a été prise en compte, qui est plutôt une donnée qu'il faut bien avoir présente à l'esprit, c'est que l'échelle du temps appartient à Dieu seul dans sa souveraineté. Et c'est lui seul qui connaît le meilleur moment pour nous d'atteindre le but. Ça, ce sont les raisons principales. Et puis, il y a d'autres raisons, il y a d'autres choses qui sont... que j'appellerais des bienfaits collatéraux. Vous savez, la guerre du Golfe dans les années 90, ça fait émerger ce concept qui était nouveau à l'époque de dommages collatéraux, qu'il s'agissait en fait de minimiser un peu le mal qui était fait aux populations civiles, les erreurs de tir, les faux des armes employées, quand ce n'était pas carrément une utilisation d'armes démesurées par rapport à l'objectif. Mais, donc la notion dans laquelle je voudrais introduire ici, c'est celle de bienfaits collatéraux, c'est-à-dire tout le contraire. Imaginez maintenant la route en lacet redéployée, mais en ligne droite. Voilà. Et vous pouvez croire si vous voulez ou pas, mais mon logiciel permet de le faire, donc la route jaune est aussi longue, et n'est pas plus longue que la route rouge. C'est simplement la route rouge qui a été redéployée en ligne droite. Et donc, même distance, on pourrait dire c'est idéal, hein. Pente parfaitement régulière, aucun virage. De quoi peut-on rêver de mieux ? Visibilité à perte de vue, le rêve, quoi. Ah ben, pas si sûr. Parce que, d'une part, ce serait compliqué hein, de construire des routes comme ça dans des régions montagneuses. Ça impliquerait même de déplacer là-haut ou de le mettre là-bas. Donc, et puis, en plus, vous imaginez les remblais qu'il faudrait faire, les tranchées qu'il faudrait creuser. Ce serait monstrueux comme travaux. Mais ça, c'est pas encore le plus important. Mais imaginez-vous... Au départ de cette ligne droite là, qui monte, qui file devant vous, tout droit à l'horizon, quel coup pour le moral, hein. Vous imaginez ça. On en perdrait même la notion de l'objectif à atteindre. On le voit pas, mais dans la route en lacet non plus, on le voit pas, mais il semble se perdre à l'infini. Il semble, ça fausse même la distance. Dans la vie chrétienne, on peut être amené... à cheminer longtemps avant d'atteindre un objectif. Et la plupart du temps, bien plus longtemps que ce à quoi on s'attendait en se mettant en chemin. Et si on savait, généralement, le temps que ça va prendre, on ne partirait même pas, d'ailleurs. Grâce à la route en lacet, grosso modo, qui suit à peu près la même pente moyenne, c'est pas tout à fait vrai que cette route jaune, le même profil de pente à quelque chose près, et qui fait donc la même distance, comme on l'a dit, c'est quand même pas la même chose quand les yeux ne le voient pas. Alors bien sûr, les gens qui construisent des routes n'en ont rien à fiche de votre morale. Au moment où ils tracent les routes, au moment où ils les construisent, ça c'est pas ça qu'ils prennent en compte, c'est pour ça que je parle de bienfaits collatéraux, mais ça reste quand même... quelque chose d'appréciable, et je pense aussi que notre Dieu, lui, par contre, prend en compte cet élément-là qui nous permet d'avoir une vue limitée de l'effort qui reste à fournir. Quand l'objectif semble loin, inaccessible, quand nos forces viennent à manquer, quand on ne sait pas où mène notre route, important, très important, que notre esprit reste fixé sur l'objectif à atteindre, mais que nos yeux se concentrent sur ce que Dieu attend de nous maintenant, ce que nous avons à faire jusqu'au prochain virage. Nous pouvons rêver de ce que nous ferons là-haut. C'est légitime, mais il n'y aura jamais de là-haut si nous n'accomplissons pas maintenant les efforts qui se présentent à nous, maintenant. Qu'est-ce que là-haut ? Vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière là-haut. Épanouissement personnel, spirituel, familial, projet professionnel, vie d'église, puisqu'on est en église, parlons-en. Projet d'église, le bâtiment, l'avenir pastoral, le parcours alpha, le travail au sud. Pour chacune de ces choses, nous sommes engagés sur une route en lacets, avec une vue qui se limite au prochain virage, et sans savoir si ce sera ou non le dernier. Certaines de ces choses semblent très avancées, d'autres semblent stagner, mais en fin de compte, qu'en savons-nous, et Dieu seul sait à quel point du parcours nous sommes rendus. Mais au point où nous en sommes, il y a deux choses très importantes. Comme je l'ai dit, faire aujourd'hui ce que Dieu attend de nous, faire ce qui est juste et bon aujourd'hui. Peut-être devrons-nous déterminer ce qui est juste et bon aujourd'hui dans la perspective de là-haut. Ça s'appelle du discernement. Mais ce qui est ni juste ni bon, ce qui est contraire aux enseignements de la parole de Dieu, et c'est dans ce sens-là que la Bible parle de chemin tortueux, ça ne nous fait pas avancer sur le bon chemin, quand bien même ce serait dans la perspective de l'objectif. On risque ainsi de se retrouver un beau matin, loin de la route, embourbé dans un champ ou dans le lit d'une rivière. Mais nous avons cette certitude que tant que nous restons dans les limites du bitume, pourvu que nous ayons quelques mètres de visibilité devant nous, ça nous suffit pour faire le pas qui se présente maintenant. Je vais rajouter une petite insertion, sur la conduite dans le brouillard. Vous ajoutez à tout ça le brouillard la nuit aussi, tiens. Combinez tout ça, la route en lacets en pleine nuit dans le brouillard. Dans le brouillard, il y a quand même une règle essentielle, c'est qu'il faut quand même avancer un petit peu. On peut rester là, s'arrêter, attendre que le brouillard se lève, mais on ne sait pas quand le brouillard va se lever. Et si ça se trouve, on fait 10 mètres et il n'y a plus de brouillard. Donc on adapte sa vitesse, mais dans le brouillard, il faut quand même avancer un petit peu. Il nous suffit quelques mètres de visibilité pour voir qu'il y a toujours du bitume sous les roues. Deuxième chose, se souvenir que c'est Dieu qui a tracé la route et qu'on ne fait que suivre ses indications. Comme dans le cas de notre cycliste, ce ne sont pas toujours des panneaux indicateurs parfaitement clairs. Il en a eu un départ d'ici, mais après, il a fallu qu'il soit attentif aux autres indications. Et on a dit, c'est le replat avec la route dans la bonne direction. Ouais, ça, c'était quand même une indication intéressante. Donc des petits coups de pouce qui sont souvent donnés comme ceci à un moment opportun, comme cette portion de route un peu plus plate qui lui permet de reprendre ses forces et qui est bien orientée pour le rassurer sur la direction qu'il suit. Ça a autant de valeur qu'un panneau indicateur. Et là, il est important de ne pas passer à côté de ces indications. Elles viennent sans doute de façon inopinée, sans qu'on les ait recherchées. Et bien sûr, il ne faut pas qu'on les ait provoquées. Un moment, vous êtes dans le dur, hein, comme on dit dans le cyclisme, et puis la pente est raide et vous sentez que vos forces ne sont pas inépuisables, le moral est mis à rude épreuve. Et puis, il survient un petit événement qui passerait presque inaperçu, mais qui vraiment vous réconforte et vous redonne du courage, au moins jusqu'au prochain lacet. Alors, évidemment, il y a un point qu'il nous faut bien aborder. Et si nous faisions fausse route ? Se pourrait-il que même une fausse route nous offre quelques mètres de bitume, de visibilité ? Ben oui, sans doute. Mais il y a quand même peut-être deux caractéristiques qui nous aident à reconnaître une fausse route. Et la première, je crois que ce n'est pas la peine de prendre vos Bibles, mais vous le connaissez, la description que fait Jésus du chemin dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Donc selon ce verset, le chemin droit, spacieux, plat, large, facile, mène à la perdition. Il n'y a pas de marche chrétienne sans difficulté. Il n'y a pas d'évangélisation sans adversité. Il n'y a pas d'église sans combat spirituel. Ce type de fausse route, la route de la facilité, se détourne insensiblement de l'objectif initial, de la bonne direction, pour finir par s'en éloigner et prendre la direction opposée à l'objectif et se terminer un beau matin dans un cul-de-sac. Un deuxième type de route, ça peut être le raccourci. Le chemin qui semble aller au but plus rapidement, mais qui, lui, ne tient aucun compte de nos limites, ni de celles des autres, et qui se termine par une hécatombe au fond d'un précipice. Comme les constructeurs de routes prennent en compte les limites des véhicules qui les empruntent, la route que Dieu a tracée pour nous est certes difficile, mais également, elle nous est propre. Et elle prend en compte nos limites humaines, premièrement, et personnelles ensuite. Et je pense que la route que Dieu a tracée pour notre Église, de même, prend en compte sa diversité d'une manière que lui seul connaît. Je ne sais pas comment il fait, mais c'est incroyable de penser que la route qu'il a tracée pour notre Église a pris en compte chacun d'entre nous, et l'ensemble dans sa diversité. Et j'aime à penser que peut-être si un seul d'entre nous ne faisait pas partie de cette Église, la route serait tant soit peu différente, peut-être un virage plus arrondi ou plus resserré, une pente modifiée, etc. Dieu a pris en compte tous ces facteurs. Et donc pour résumer sur la question de la fausse route, d'un côté, une route trop facile, ou trop facile trop longtemps, parce que le replat c'était bien. Il a aimé, hein, je peux vous assurer, mais trop facile trop longtemps. Prise durable d'une direction divergente, négligence des indications ou négligence de l'absence d'indications, cette espèce d'engourdissement qui naît dans le train-train et dans la douce quiétude. Et l'autre cas qui est lui peut-être opposé, la route qui semble rapidement conduire à l'objectif, mais qui ne s'embarrasse pas des limites de chacun et qui se passe dans l'entêtement, le refus obstiné de considérer les indications ou l'absence d'indications quand ce ne sont pas des indications fantaisistes ou même montées en épingle. À ce sujet-là, voici ce que dit le prophète Jérémie au chapitre 18. Je vais le lire dans la version seconde, puis après je dirais, c'est intéressant de dire comment le traduit la Bible en français courant. Chapitre 18, versets 11 et 12. « Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel. » C'est l'Éternel qui parle. Hein. « Voici, je prépare contre vous un malheur et je médite un projet contre vous. » que chacun revienne de sa mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain. Car nous suivrons nos pensées, nous agirons selon chacun, selon les penchants de notre mauvais cœur. Et c'est là que je dis la Bible en français courant est intéressante, parce que je pense qu'aujourd'hui, personne ne dirait ça. Nous suivrons nos penchants, nous agirons selon les penchants de notre mauvais cœur. Ce n'est pas quelque chose qu'on entendrait, mais la Bible en français courant dit ceci. Donc, c'est en vain, elle le traduit par inutile d'insister. Et ensuite, c'est écrit, nous ferons ce que nous avons décidé. Donc, entêtement, obstination, à ne pas écouter à ne pas regarder les indications, le manque d'indications qui nous est apporté. On a donc là les symptômes essentiels de deux routes opposées mais erronées. Proverbe 15, 24, pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, le verset qu'on a cité au tout début, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Et aujourd'hui, donc, comme on l'a dit, c'est notre culte de rentrée. On va retrouver tous les sujets qu'on a laissés avant les vacances. J'espère que pour la plupart d'entre vous, ça a été un peu comme ce replat, comme un replat sur notre route. Et qu'à cette occasion, le Seigneur vous a accordé sa paix dans la perspective de cette année qui commence. Et en ce qui me concerne, c'est le cas. Je peux dire que cet été a vraiment été... comme ça, ce replat. Mais nul doute que la route va reprendre avec ses virages, ses efforts et ses interrogations. Une dernière réflexion. Ne faisons pas de notre objectif du moment un objectif ultime. Notre seul objectif ultime, c'est de nous retrouver dans la présence du Seigneur et de contempler sa gloire. Le là-haut ultime, c'est ça. Mais si nous faisons de l'objectif du moment un objectif ultime, alors là, notre vie risque de perdre beaucoup de son sens lorsque nous y arriverons. Il faut bien réaliser que là-haut, c'est notre destination du moment et que peut-être elle ne répondra pas à toutes nos attentes, à toutes nos aspirations, et puis qu'il faudra l'accepter comme elle sera. Mais nous aurons aussi très probablement de bonnes surprises. Et ces bonnes surprises nous feront apprécier les efforts engagés. Alors vraiment, et bon, sans se torturer l'esprit sur ce qui se passera après que nous soyons arrivés à là-haut, considérons que peut-être il existe, enfin, considérons pas peut-être, c'est sûr, qu'il existe une autre ville. Il existe une ville qui s'appelle Plus Haut. Et que ce sera sans doute à partir de là-haut que nous pourrons repartir dans cette direction, une direction un peu différente. Et puis qu'après là-haut, Plus Haut, pardon, nous avons encore une autre ville. Alors, peut-être que vous ne voyez pas bien. Il s'appelle Au Loin. Voilà. On ne sait pas où tout ça va vraiment nous mener. Mais une fois que nous serons arrivés à là-haut, nous pourrons rêver d'une nouvelle aventure. Comme l'a dit Étienne la semaine dernière, Étienne, notre panneau indicateur qui a été donné la semaine dernière, et nous pourrons nous dire pourquoi pas. Pourquoi pas? En fin de compte, quand nous contemplerons notre vie, c'est une toute autre route qui apparaîtra, probablement pas très rectiligne elle non plus, qui va donc de ici à là-haut, de là-haut à plus haut et de plus haut à au loin. Et un proverbe chinois dit ceci, « Ne craignons pas d'être lent, craignons seulement d'être à l'arrêt. » Et j'ajouterais, « Craignons aussi de nous précipiter. » Un lacet et au prochain virage, peut-être l'arrivée, sinon le lacet suivant. L'objectif dans la tête, mais les yeux sur la route. Pour terminer, laissons la parole à la parole de Dieu avec ce proverbe. On va revenir au proverbe au chapitre 4 et au verset 25. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Amen. Je pensais prendre le chant.